Lorsque j'ai commencé à remarquer la présence croissante de l'Auto-Québec, c'est-à-dire la société d'État qui s'occupe des jeux de hasard au Québec, dans les événements de jeux vidéo, je dois vous avouer que j'étais intrigué. Est-ce qu'ils veulent une part du gâteau qu'est le gambling autour du sport électronique? Veulent-ils collaborer avec des développeurs locaux pour créer de nouvelles loteries? Ou est-ce qu'ils veulent tout simplement devenir éditeurs de jeux et potentiellement diversifier leurs revenus? Je dois vous avouer, ça ne m'a pas pris vraiment beaucoup de temps pour découvrir l'un des visages derrière cette initiative et il s'appelle Patrick Hillé. Ça tombe plutôt bien parce qu'au-delà de son engagement avec l'Auto-Québec, Patrick a le même prénom que moi, je dois l'avouer, mais aussi un cheminement professionnel assez similaire au mien. Tout comme moi, il a commencé dans la sphère de la conception de jeux et tranquillement, pas vite, il a développé une préférence pour l'expérience utilisateur et a décidé d'en faire une carrière. Toutefois, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on commence à creuser, on se rend compte que Patrick a un passé en animation, en création d'interface en tant qu'artiste, mais aussi des engagements dans diverses organisations telles que le chapitre montréalais de TED. Vous savez bien, le groupe qui fait des présentations en 20 minutes assez épatantes sur divers sujets. Il ne m'en a pas fallu plus pour contacter Patrick et organiser un repas avec lui. Fait intéressant, Patrick est vegan, donc cette fois-ci, il a fallu que je change mon plan de match. Au lieu d'aller au Whippy Poutine, nous avons tout simplement décidé d'aller à la Panthère Verte sur la rue Saint-Denis pour parler de oui, qu'est-ce que l'Auto-Québec veut faire avec le jeu vidéo et ce mystérieux passé. Mon nom est Patrick Tellen, je suis concepteur d'interface ainsi qu'animateur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 20 de Poutine à 2.
Station Sherbrooke.
Donc oui, je suis avec Patrick Hillé actuellement à la Panthère Verte sur Saint-Denis. Est-ce que ça va bien, Patrick?
Va super bien, et toi?
Ouais, c'est assez étrange de parler à un autre Patrick en partant, là, donc je suis un peu déconcerté. Je sais pas si ça te tentera, on va continuer avec le caractère déconcertant. T'avais insisté pour poser des questions de suite en partant plutôt que l'inverse, c'est très intéressant.
OK, ben oui, justement, moi j'étais curieux, je me suis dit que probablement pour la plupart des gens qui t'écoutent, je dois être un inconnu, puis oui. Je me demandais pourquoi t'as choisi de m'inviter, qu'est-ce qui te fait dire... Ça serait peut-être intéressant de faire un podcast avec Patrick Hillé.
Absolument. En partant le prénom, je me disais ça va être très intéressant pendant une heure et demie de m'adresser à quelqu'un qui a le même prénom que moi. Non, puis sérieusement, on va en parler tantôt. Je l'ai mentionné dans l'introduction. Tu travailles dans une organisation qu'en temps normal, on ne rapprocherait pas aux jeux vidéo. Donc déjà là, pour moi, c'était un peu intriguant. Une organisation qui est affiliée à l'État aussi. Mm-hmm. Donc souvent, moi, je suis très intéressé de regarder... porter attention, devrais-je dire, au regard des compagnies privées sur le jeu vidéo, potentiellement l'État. Donc, je serais curieux d'avoir ta position là-dessus. Et je dois avouer, j'ai quand même fait mes devoirs de recherche un peu. Je connais du monde qui ont déjà fait affaire avec toi. J'avais eu des bons retours. J'ai entendu parler de toi comme étant une personne passionnée qui regarde beaucoup de l'industrie. Donc, j'ai dit, ça vaudrait peut-être la peine de vraiment rencontrer quelqu'un qui a toutes ces qualités-là et toutes ces connaissances-là. Est-ce que ça fait du sens?
Ça m'éclaire un petit peu.
Oui. Est-ce que tu es insatisfait face à ça à date ou ça satisfait quand même à 80% ou...
Non, jusqu'à date, ça va très bien, mais j'étais quand même curieux. Puis je me disais que probablement que les gens qui t'écoutent seraient curieux aussi de savoir pourquoi on a. Pourquoi tu as quelqu'un ici qui n'a pas nécessairement, selon sa fonction, les deux pieds directement dans le jeu vidéo.
Non, absolument. Je te dirais qu'on avait commencé à développer le produit aussi de Poutine à 2. Le regard qu'on avait, c'est qu'on disait, oui, certes, le trois quarts du temps, on risque de parler à des développeurs, mais qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement avec la situation de Montréal? C'est qu'autour du jeu vidéo à Montréal, il y a quand même un écosystème assez riche. On est sur Saint-Denis actuellement, on est dans le quadrilatère où est-ce qu'on a des bars où est-ce que tu peux jouer à des jeux de table, tu as des bars où tu peux jouer à des jeux vidéo. Peut-être une surprise, ça se peut que je rencontre ces gens-là à court moyen terme aussi. Donc, pour moi, c'est des regards différents sur le jeu vidéo, le jeu en général. Puis c'est ce qui fait de Montréal, à mon avis, un écosystème assez unique dans le domaine ludique. Donc, évidemment, un peu notre mission, c'est d'exposer cet écosystème-là aux gens qui nous écoutent.
C'est super intéressant. D'ailleurs, le quartier ici, j'ai souvent entendu appeler le quartier ludique.
Est-ce que c'est une appellation officielle ou officieuse?
Je pense pas que ce soit officiel. Je pense qu'il y en a qui y travaillent, mais on est dans le quartier latin. Puis oui. Le petit bout ici, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont rebaptisé le quartier ludique, là, oui. Justement, avec tous les petits commerces reliés au jeu.
Oui, bien, c'est ça. Peut-être faire une mise à la situation. On peut faire une liste très rapidement. Bon, il y a Arcade Montréal qui est pas trop loin, qui est une espèce de fusion de bar et d'arcade de jeux vidéo de la vieille école, c'est l'année 80-90. Est-ce qu'on a deux bars actuellement avec des jeux de table? Il y a le Randolph pour sûr. Est-ce qu'il y en a un autre?
Je pense que la récréation, qui n'est pas un bar, mais qui est un café-restaurant. Okay. Je dois me confesser, je ne suis jamais allé. Je suis allé au Randolph, par contre, mais je connais bien les gens de la récréation.
Absolument. On a aussi la mémoire des noms me fausse ce soir. C'est terrible. Sinon, c'est quoi le bar de sport électronique?
Le Meltdown.
Le Meltdown, qui est aussi dans le coin.
Qui est juste en dessous du Arcade Montréal.
Et si je m'en rappelle bien, il y avait un autre bar plus affilié, sport électronique, qui a fermé, malheureusement.
Oui, attends, le nom m'échappe aussi. Ah! Je suis très mauvais avec les noms. Et tantôt, celui-là m'a échappé aussi.
C'est ça, au pire, tantôt, je parlerai à mes recherchistes. On le retrouvera à nouveau, comme si j'aurais des recherchistes. Pour le bien de nos auditrices et de nos auditeurs, j'aimerais un peu parler de ce que tu fais actuellement. Puis peut-être après ça, un petit peu plus tard dans l'épisode, on va rentrer dans les détails croustillants.
Plaisir.
Donc, quelle est ta fonction professionnelle actuelle?
Moi, je travaille dans le département d'innovation. En fait, je travaille dans le département de stratégie, innovation et intelligence d'affaires à l'Auto-Québec. Mm-hmm. Un département qui fait partie du corpo à l'Auto-Québec. Donc, on est directement sous la présidence. Puis, pour s'il y a des gens qui t'écoutent qui sont hors Québec, l'Auto-Québec, c'est l'organisme, c'est une compagnie détenue par l'État. Mm-hmm. Qui gère tout ce qui tourne autour du jeu de hasard, qui gère et opère tout ce qui tourne autour du jeu de hasard au Québec. Donc, on parle de casino, on parle de loterie, on parle de loterie vidéo, on parle de bingo. Mais au-delà de ça aussi, c'est une compagnie qui est très, très impliquée dans la société québécoise via plusieurs commandites, plusieurs initiatives, autant dans la culture, dans la musique, dans les sports, dans un paquet de domaines. Culturel, donc qui a aussi une mission qui va au-delà de sa mission de gérer le jeu de hasard. Je peux peut-être donner des petits exemples pour ceux qui connaissent moins. Par exemple, on a la plus grande collection d'art au Québec,
ah oui.
Qui est presque exclusivement ou exclusivement composée d'œuvres d'artistes québécois et d'artistes québécoises. Et oui, on est très impliqué dans plusieurs festivals partout au Québec. Tant à Montréal, à Québec, que dans les régions. Beaucoup de festivals qui reçoivent du support de l'Auto-Québec. Et ça, c'est certaines des implications les plus visibles de ce côté-là, de cette compagnie-là.
Et toi, ton boulot de tous les jours, ça ressemble à quoi?
C'est une des choses que j'aime beaucoup de mon job de tous les jours, c'est que c'est très difficile de décrire qu'est-ce que c'est une journée typique. Moi, je suis quelqu'un qui s'ennuierait rapidement à faire un travail qui est plus routinier. Donc, mon emploi est appelé à changer en fonction des stratégies qui sont développées, en fonction des tendances qu'on souhaite observer, dans lesquelles on souhaite s'investir. Ça peut aller de la gestion de projet jusqu'au développement de partenariats, jusqu'au développement de stratégie. Donc, c'est assez varié. Ce que j'aime, c'est que ça se fait beaucoup avec les gens.
Okay.
Autant à l'interne, avec les différents départements. Parce que c'est une grande entreprise quand même, l'Auto-Québec. On est en tout et partout, j'espère ne pas trop me tromper, entre 5 et 6 000 employés.
Quand même.
Donc, c'est pas petit. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens là, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses différentes. Fait que ma job m'appelle à être en collaboration avec un paquet de gens à l'interne, mais à l'externe aussi de l'Auto-Québec.
Comment ça se déroule? Parce que bon, je sais qu'on souvent, il y a beaucoup d'événements de jeux vidéo à Montréal. Donc toi, tu vas avoir quand même un certain devoir de présence. J'imagine, tu t'en vas là-bas, tu rencontres des gens, tu serres des mains, tu regardes qu'est-ce qui se trame.
C'est pas vraiment un devoir, en même temps, c'est proche aussi. Je suis quand même un passionné de jeux. Comme je dirais, c'est plus utile. J'y vais et j'apprends un paquet de choses qui me sont utiles dans mon travail au fur et à mesure. Parce que oui, une des stratégies à laquelle j'ai vraiment participé au développement, c'est notre stratégie de rapprochement du jeu vidéo, des e-sports et de la culture entourant le jeu vidéo. Donc oui, il y a un nombre grandissant d'événements, puis c'est justement une des choses qui nous a mis la puce à l'oreille, comme quoi, écoute, il se passe quelque chose là, on est présent dans plein d'autres domaines, on pourrait aussi être présent de ce côté-là.
C'est ça, définitivement, il y a un peu un rapprochement aussi. Vous êtes impliqué dans les jeux. Oui, certes, les jeux d'hasard, mais pour vous, ça doit être extrêmement inspirant de regarder qu'est-ce qu'il fait, exemple, du côté des jeux indépendants et ainsi de suite.
C'est oui, t'as mis le doigt dessus. Parfaitement, c'est quelque chose qui est absolument inspirant. Comme tu l'as dit, on est dans le milieu du jeu. C'est pour nous, tout ce qui se fait dans le jeu vidéo, tout ce qui se fait dans le jeu at large, c'est nos voisins. Donc, d'aller voir ce qui se fait là, c'est très, très compatible avec les réflexions qu'on a à l'interne ou avec ce qu'on produit. Pour nous, ça nous aide à compléter notre compréhension du milieu du divertissement et du milieu ludique en général.
Sinon aussi, je trouve ça très intéressant que tu mentionnes, bon, tu fais acte de présence effectivement dans ces événements-là, mais au-delà de la sphère du travail, tu es impliqué aussi dans d'autres organisations, comme notamment tu me disais que tu es curateur du côté de TEDx Montréal.
Oui.
Quand tu vois, peut-être, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi TED? C'est quoi TED?
Bien, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont vu ces vidéos-là sans nécessairement savoir que c'est TED. Il y a plusieurs vidéos qui sont distribuées en ligne où on a des conférenciers qui font des conférences d'environ 12 à 18 minutes sur des sujets qui sont rarement des sujets faciles. C'est souvent des sujets assez complexes. Donc, un peu le défi de ces vidéos-là, de TED, c'est de rendre des sujets complexes accessibles pour des gens qui ne sont pas des spécialistes du milieu. Donc, oui, il y a la grande organisation de TED qui produit quelques événements chaque année, dont un qui est à Vancouver. Il y a cette organisation-là qui produit ces vidéos, mais je pense, si je ne me trompe pas, en 2009, à peu près en 2009, si je ne me trompe pas, ils ont décidé un peu d'exploser l'organisation puis de fournir des licences à différents endroits dans le monde. Donc maintenant, il y a des milliers, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a des milliers de licences partout dans le monde de TEDx, qui est un petit peu la branche plus indépendante de TED. Donc nous, à Montréal, on a une licence de TEDx Montréal. Il y a plusieurs autres licences aussi, TEDx UDM, TEDx Women, TEDx Montréal Women. Donc, il y a beaucoup de licences à Montréal. Puis, c'est ça. Le but, c'est de produire des petites vidéos sur des sujets qui sont fascinants, qui sont complexes, mais qu'on veut rendre accessibles aux gens.
Quelle est la pertinence d'avoir une sous-partie de l'organisation qui est installée à Montréal? Est-ce que c'est justement de donner de la visibilité aux talents de Montréal? Est-ce que c'est de se pencher sur des problèmes qui sont plus montréalais?
Nous, la manière qu'on l'approche à TEDx Montréal, notre but, c'est un peu d'exporter les idées montréalaises. Et ça, notre objectif, on le met comme ça. On se dit, bien, il y a un paquet de choses intéressantes qui se font ici dans des domaines complètement variés. Autant, ça part de l'aéronautique à la médecine, à la culture. Nommez-les, là, tu le sais comme moi, il y en a, c'est pas possible. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher ces sujets-là intéressants, ces découvertes-là, ces gens qui font des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, puis de les rendre visibles plus largement en les aidant à compresser tout ce savoir-là en une douzaine de minutes.
Oui, parce que ça doit être un exercice très compliqué de prendre quelque chose de complexe, de dire non, en 12 minutes, il faut te rendre ça digeste pour n'importe qui, là.
Je me souviens plus qui disait ça. Tu l'as sûrement entendu plusieurs fois, mais c'est quoi le petit dicton qui disait « Ah, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais écrit une lettre plus courte. » c'est vraiment ça qu'on vit, là, parce que et qu'on adore vivre, là, parce que quand on a un conférencier qui arrive avec son sujet sur, supposons, comment aider à traiter le sida, bien, on essaie de avec lui de travailler pendant plusieurs mois pour ramasser ça en quelques minutes, trouver des exemples pertinents sans vulgariser, mais sans simplifier, sans rendre ça simpliste. Il faut que ça reste vrai et il faut que ça reste que la personne qui livre la conférence soit à l'aise avec ce qui est dit.
C'est très cool. Et justement, ton mandat de curateur dans ce contexte-là, au-delà d'assister les personnes qui présentent leurs sujets, est-ce que tu as d'autres responsabilités? Curateur, ça sous-entend qu'il y a sûrement une grosse masse de sujets puis tu dois le diviser là-dedans pour trouver vraiment les petites perles, non?
C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Oui, on a plusieurs sujets qui nous arrivent, mais en général, c'est nous qui va chasser les sujets. Donc ça, c'est il y a comme un travail de recherchiste ou de chasseur de sujets, puis moi, c'est un petit bout qui me fait vraiment triper. Ça me donne comme un prétexte pour aller jaser à des gens à qui je ne jaserais pas nécessairement de sujets qui sont pas nécessairement des sujets que, que j'aurais à traiter dans mon quotidien. Donc, ça me donne un prétexte pour aller rencontrer ces gens-là, puis leur demander de m'expliquer ce sur quoi ils travaillent, puis en quoi ça en quoi c'est important, et etc. Donc, oui, c'est plus un travail de chasse qui se fait. Et après ça, oui, il y a tout un travail de raffinement puis de sélection, et ça ne se fait pas, évidemment, ça ne se fait surtout pas que par moi. On est toute une équipe à faire ça.
Comment tu fais pour trouver tes sujets? Est-ce que tu as dans ton appartement un jeu de dards avec des sujets dessus, et tu tires des dards et t'espères pour le mieux?
Pas du tout, mais regarde, c'est... Ça fait un petit peu partie de ma nature. Je suis quelqu'un de très, très curieux. Comme je le disais un peu plus tôt, si j'avais un travail routinier, je m'ennuierais. Donc, j'ai comme... naturellement, je m'informe sur plein de sujets. Puis maintenant que j'ai cet œil TEDx, disons-là, cette mission-là qui est pas très loin derrière moi, bien, quand je lis sur des choses qui m'intéressent, quand je vois des vidéos sur des trucs qui m'intéressent, quand j'entends parler de quelqu'un qui... je me pose des questions sur ce qu'il fait, puis je me dis, attends un peu, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Mm-hmm. Ben là, il y a tout le petit TEDx qui me dit, ouais, peut-être que tu devrais aller rencontrer, voir, puis voir comment que. Est-ce qu'il y a un sujet derrière ça qu'on pourrait présenter?
Absolument, tout à ton honneur. Ça te fait rien, on est quand même dans un restaurant pour manger de la poutine. Fait que je propose qu'on commande la dite poutine, puis entre les deux segments, on va en manger un peu, puis ensuite, on va revenir pour converser de d'autres sujets.
Fait d'accord.
Fantastique. Merci de ton approbation. À tantôt. Donc, nous voilà de retour. On se rappellera, on est à la Panthère Verte actuellement, donc ça sous-entend qu'on a peut-être à faire un type de poutine différente ce soir, Pat. Puis-tu en parler?
Oui, bien, quand tu m'as proposé de venir manger une poutine, je pense qu'une des premières choses que je t'ai dit, ben, on va devoir trouver un endroit vegan pour la
oui.
poutine. Donc, c'est pour ça qu'on est à la Panthère Verte, parce que, oui, je mange sur une diète vegan.
Question personnelle, ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est un questionnement éthique qui t'a amené à ça, ou il y a d'autres causes?
C'est ben, plusieurs raisons, autant environnementales, éthiques et pour la santé. Quoique, on pourrait en discuter autour d'une poutine.
Oui.
C'est vegan ou pas vegan, je pense que c'est pas aussi... C'est tout aussi pas santé.
Oui, non, absolument. Des fois, j'imagine dans chaque sphère, des fois, il y a des domaines d'excès, donc...
Ben oui, c'est sûr.
Et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la poutine à date?
Oui, elle était quand même très bien. Je te le cacherai pas, ils ont tout un menu qui est tout aussi bon aussi ici de falafel, et etc. Donc, la poutine, elle est très... c'est un genre de comment on dit, un comfort food. Fait
oui.
que c'est toujours le fun de retourner à une poutine de temps en temps.
C'est ça, pour expliquer un peu dans les détails les implications. Bon, les pommes de terre, ça reste des pommes de terre, donc c'est pas si pire, c'est pas trop dangereux. Le fromage, à ton avis, c'était quoi?
Je pense que c'est du tofu, c'est le fromage.
OK.
C'est pas... Écoute, je te raconte une petite histoire. Le fromage vegan, on va se le dire, là.
Attention, mesdames et messieurs, une bombe est sur le bord de tomber.
C'est rarement comme du vrai fromage. Je me rappelle, ça fait un bout de temps, quand même longtemps que je suis vegan, mais je me rappelle très bien qu'est-ce que ça goûte le fromage.
Mm-hmm.
Et ouais, ça goûte pas la même chose.
Il y a du travail à faire.
Il y a du travail à faire. Mais récemment, je suis allé, on tombe dans mes histoires de vacances, je suis allé à Mexico, puis Mexico City, et j'ai mangé très bien. J'ai mangé incroyablement bien. Ça m'a vraiment surpris. Pas parce que je pensais qu'il n'y avait pas de la bonne bouffe à Mexico City, mais côté bouffe vegan, ça m'a quand même surpris. Il y avait un excellent fromage fait à base de tapioca et de farine de patate.
J'avoue, dit de même, c'est bizarre, mais ça pourrait faire du sens.
Mais dans la bouche, c'était bon.
Oui, cool. Et bien, d'ailleurs, au Mexique, est-ce qu'il commence à avoir une grosse culture de bouffe vegan, ou c'est parce que c'est une grosse ville, il y avait quand même une bonne offre, ce front-là?
Je serais probablement pas la bonne personne pour te le dire, parce que j'ai pas été si longtemps que ça. J'ai été une semaine à Mexico City. Donc, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai vu beaucoup d'offres côté vegan, mais... Il faudrait peut-être plus demander aux locaux là, si c'est vraiment une tendance ou pas, là, ou si c'est relié au fait que c'est une grande ville quand même.
Je dis de même, ça pourrait être un sujet de conférence TED intéressant.
Sur Mexico City et ouais, le vegan.
C'est ça. Pat prend des notes actuellement.
Je prends des notes.
Et voilà, c'est fantastique. Hey, donc, ça te fait rien, on va quand même continuer à parler de toi. On va vraiment revenir à la base. Bon, tu as été élevé à Saint-Auguste-de-Desmaures. Dans le coin de Québec.
À Saint-Augustin-de-Desmaures, ouais.
Est-ce que c'est en vigueur dans ton temps d'appeler ça Saint-Aug?
Ben oui.
Oui, absolument. Bon, très bien. Juste pour ceux qui sont moins familiers que la région de Québec, bon, c'est à côté de Québec. Comment ça se positionne par rapport à Québec? Comment c'est différent de Québec?
Ben c'est une petite ville en banlieue de Québec qui ne fait pas partie de la ville de Québec.
Mm-hmm.
En tout cas, ma politique de Québec est un petit peu loin, là, ma politique municipale. Ça l'a peut-être fait partie pendant quelques années dans le temps des fusions. Donc, bref, c'est une ville qui est sur le bord du fleuve, un petit peu plus vers l'ouest de Québec. Donc, pas très loin. Et c'est là que je suis né, alors que ce n'était qu'un petit village. Et maintenant, c'est pas beaucoup plus gros.
Ça ressemblait à quoi grandir là-bas? Parce que juste te donner un peu de contexte, moi, j'ai grandi en périphérie de Trois-Rivières. Donc, oui, on faisait nos trucs sur notre côté de la rive sud, mais éventuellement, on devait aller à Trois-Rivières de temps en temps. Est-ce que c'était sensiblement la même relation, Saint-Og versus Québec, et ainsi de suite?
Oui, bien, c'est très proche, là. C'est sûr que tant que j'étais pas au secondaire, au primaire, tout ça, bien, je restais beaucoup là, autour du village de Saint-Augustin, mais sinon, oui, tu viens qu'à faire un peu partie de Québec. Et d'ailleurs, j'ai habité pendant facilement une dizaine d'années à Québec, dans Limoilou, dans le quartier de Limoilou. Mais voilà, sinon, si tu poses des questions sur c'est quoi un petit peu la vie c'était quoi la vie dans mon jeune temps à Saint-Augustin, si tu as vu les films de Ricardo Troggi,
oui, ça qui
lui était à Cap-Rouge, donc le village juste à côté. À moins que je dise une niaiserie, mais je pense que c'est ça. Donc, ça ressemble beaucoup. Hein,
oui, absolument. Puis, ça ressemblait à quoi ton enfance? Déjà, en partant, étais-tu pas mal dans le jeu vidéo, ainsi de suite?
Ben, oui, un peu, mais comment je dirais? Moi, mon père était un gros fan de technologie.
OK.
Puis là, je vais trahir mon âge. Hein, on se rapporte avant la première Nintendo, un petit peu. Pas beaucoup.
Mais je t'en prie, continue.
Mais mon père était plus adepte d'ordinateur.
Mm-hmm.
Donc, les premières, entre guillemets, consoles sur lesquelles j'ai joué, c'était plus des ordinateurs. Donc, on parle du TRS-80. Je sais pas si ça dit quelque chose. L'ordinateur console de jeu de Radio Shack. Donc, moi, c'est ça. Mon premier contact avec le jeu vidéo, c'était le TRS-80. Puis on dirait que ça passait dans la famille. Mes parents sont professeurs, étaient professeurs. Ils sont à retraite maintenant. Et on dirait que le petit côté, un ordinateur, c'est plus éducatif.
Ouais.
Donc, on n'a jamais vraiment eu de console de jeu à la maison. Atari, non. Mais si on pouvait appeler ça un ordinateur, ça, c'est correct. Ça pouvait rentrer parce que c'est important, la technologie. Là, c'est important pour vous, les jeunes.
C'était l'outil du futur aussi.
C'était l'outil du futur. Puis il avait tout à fait raison là-dessus. Mon père l'enseignait justement aussi dans ses cours. Il enseignait le Q-Basic, je pense, ou quelque chose comme ça.
On the side. Ou une affaire de main. Tant qu'il faisait pas des trous dans des cartes de carton, c'était déjà ça.
Non. Il me l'a conté qu'il l'avait fait à l'université.
Oh mon Dieu, je le plains.
Ça devait être pénible.
Déjà à cette époque-là, ce type de plateforme-là, est-ce qu'il y avait des jeux qui avaient été cherchés et qui t'ont marqué?
Oui, il y en a beaucoup. Je suis très mauvais avec les noms, mais il y avait beaucoup sur TRS-80 des jeux un peu copiés du Atari ou des choses comme ça. T'sais, dans ces temps-là, le copyright sur le jeu était assez flou.
Mm-hmm.
Donc, je me rappelle de Zaxxon ou de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bref, il y avait un peu toutes les copies de ce qui se passait sur Atari. Je sais qu'on en avait une panoplie là, de jeux qui venaient avec ça. D'ailleurs, je pense qu'on a encore cette plateforme-là au chalet, quelque part, enfierrée dans une étagère.
Non, c'est super intéressant. Moi, dans le temps, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais eu un Commodore 64. C'était très intéressant le rapport que tu avais à ça parce que, bon, il fallait que tu tapes tes instructions pour partir les jeux. Donc, dans le temps, moi, j'étais LOAD, puis là, bon, Ghostbusters, et ainsi de suite. Donc, c'est un rapport vraiment différent que le jeu. Il y avait aussi, comme tu disais, la conscience de dire, OK, je peux me servir de ça aussi pour faire des trucs. Puis, d'après moi, ça t'amène vraiment un regard différent, une relation différente.
Mm-hmm.
Après ça, tu migrais vers les consoles ou t'es resté dans le PC un peu plus moderne?
La console, ça a toujours été quelque chose que je jouais chez les amis. Quand on avait le TRS-80, il y avait beaucoup de gens, des amis qui venaient chez nous jouer à ça, mais ça n'a pas été long que tout le monde a eu une Nintendo.
Mm-hmm.
Puis là, ça renversait un petit peu la vapeur. C'est moi qui allais chez les amis essayer les Tetris et Mario, etc. Fait que oui, rapidement, j'ai comme aimé la console aussi, mais sans jamais... En fait, c'est pas vrai. Il y a 2 ans, j'ai eu ma première console.
Félicitations.
En fait, mes deux premières consoles en même temps. Une... NES et une SNES. Donc ça, c'est mes deux consoles que j'ai maintenant, parce que j'avais trouvé une petite TV cathodique, puis je me suis dit, ouais, ça pourrait peut-être fitter.
Non, puis c'est quelque chose à analyser qui vaut
donc,
la peine.
Je suis resté quand même pas mal dans le PC, puis après, mon père aussi est resté passionné d'ordinateur, donc il est toujours resté... Il a toujours voulu acheter les ordinateurs qui sortaient, puis qui devenaient de plus en plus populaires et de plus en plus accessibles. Donc on a eu des... 386, des Pentium 1, Pentium 2 et toutes ces ordis-là. Puis c'est un peu là-dessus que je me suis... que j'ai pris connaissance avec les jeux qui existaient sur ces plateformes-là.
OK. Encore une fois, jeux PC, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué? Comme as-tu connu les Wolfenstein, de Doom de ce monde?
Wolfenstein, oui. Doom, un peu comme tout le monde. Aussi Commander Keen, un peu moins connu.
Absolument.
J'ai passé beaucoup de temps sur Incredible Machine avec ma petite sœur qui trippait beaucoup sur ces jeux-là de puzzle, ou tous les jeux aussi de Quest que j'ai bien aimé.
Space Quest, Police Quest.
Space Quest, j'ai un peu moins joué. Police Quest, je pense que j'étais trop jeune puis je comprenais pas bien.
Non, c'était un peu sombre aussi.
Mais ça, un que j'ai vraiment trippé, c'était Day of the Tentacle.
Oui.
Ça, quel bon jeu. Je pense que j'ai rejoué récemment puis il est ressorti sur Steam. J'ai vraiment, vraiment aimé. Quoi d'autre? Il y en aurait des tonnes à nommer. Oui, les premiers Duke Nukem en 2D.
Oui.
Ça, j'ai un bon souvenir de ça.
Que ça devienne Salas et ainsi de suite.
Mm-hmm. Puis je me rappelle aussi d'un jeu point and click de Blade Runner qui était très bon.
Que Westwood avait fait, si je me rappelle bien. Ça avait un look un peu CD-ROM.
Oui, c'était très CD-ROM. Oui, tu mettais CD-ROM. Les Myst aussi. Ça aussi, j'ai joué beaucoup. C'est très drôle. Moi et ma sœur, on jouait chacun notre tour. Puis là, on se donnait des trucs. Toi, t'es rendu où? Qu'est-ce que de se trouver? Ah, là, je suis pris là. Aide-moi. Puis
wow.
C'est quand même très drôle.
Très, très cool. Et là, justement, t'avais mentionné tes parents, tes professeurs. Ton père poussait beaucoup la technologie. Mm-hmm. Il avait été professeur même de programmation.
En fait, il n'était pas professeur de programmation.
Non.
Professeur au primaire, mais il enseignait on the side un petit peu le côté informatique à ses élèves.
Très cool. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui essayait de pousser à la maison aussi? Parce que là, justement, tu avais l'air d'avoir tracé une nuance que bon, le PC, c'était aussi un outil de création, c'était quelque chose que tu utilisais pour produire des trucs. Est-ce que tu faisais ça justement pendant ton adolescence aussi, programmer ou essayer des trucs?
J'ai jamais vraiment programmé. J'ai toujours été un utilisateur de PC. J'ai appris rapidement à utiliser les Photoshop, les logiciels de la suite Adobe. Je me suis rapidement passionné aussi de la 3D.
Mm-hmm.
Donc j'ai été toujours de ce côté-là. Ma mère, qui elle aussi est professeure, mais elle est plus passionnée d'art.
Mm-hmm.
C'est une artiste maintenant qu'elle est à retraite. Elle est artiste et elle a complété son doctorat, ou elle est en train de compléter son doctorat en art, en fait. C'est un projet de retraite intéressant.
C'est cool,
puis,
ouais, vraiment.
Donc, c'est peut-être de ce côté-là que j'ai hérité de la petite touche artistique. Donc, j'ai combiné les deux. C'est plus ça qui m'a intéressé, parce que côté programmation, on va se le dire, je suis complètement nul.
Il faut que tu aies une inclinaison, d'après moi, pour ça, sans quoi c'est très, très difficile.
Capable de parler avec un programmeur. J'ai beaucoup d'amis programmeurs, donc je connais, mais en surface, on me verra pas programmer grand-chose, et c'est probablement une très bonne idée, très bonne chose.
Et très louable de ta part de le reconnaître, honnêtement. Donc, c'est ça. Puis éventuellement, tu as décidé d'aller à l'école. Très louable de ta part. Tu étais à l'université, notamment à l'Université de Laval, tout le temps dans la région de Québec. Dans ce cas-là, tu avais fait une formation en animation, médias interactifs et Alouette.
Ouais, en fait, moi, je suis... Je suis rentré à l'université un peu tard. Je l'ai dit plus tôt, je suis quelqu'un qui est très, très curieux, qui est passionné de bien des choses. Et ça fait en sorte que ça a été un petit peu plus long au cégep. j'ai fait le cégep, j'ai étudié en sciences humaines, en sciences pures et en littérature et expression pour finalement terminer avec un cégep par cumul. Donc... voilà, ça fait partie de la vie. Puis après ça, ben, j'ai fait un peu les 100 métiers. Je suis allé autant dans... J'ai fait de la livraison, j'ai fait de la construction, j'ai fait un paquet de choses différentes. Avant de rentrer à l'université, là, je me suis dit, ouais, j'ai envie de rentrer à l'université. J'étais passionné de jeux vidéo encore à ce moment-là, comme toujours maintenant aussi. Puis oui, j'ai décidé de rentrer à l'université. Je voulais aller dans un programme pour faire du game design, mais à ce moment-là, ça n'existait pas vraiment. Donc oui, j'ai fait l'université au départ, quand j'ai pris ce programme-là, ça s'appelait le bac bac en arts et sciences de l'animation interactive et c'est devenu tranquillement le bac en arts et sciences de l'animation. Mais juste avant que ce bac-là ouvre, je suis entré à l'université en arts plastiques parce que je savais que le bac ouvrirait, mais il n'existait pas encore. Donc, je me suis dit, ben je vais quand même rentrer à l'université, je vais étudier les arts. Ça va me préparer, ça va me donner certains cours qui sont qui vont être valides dans l'autre programme. Puis, ben au détour, je me suis passionné d'art aussi parce que, bon, je l'ai dit plusieurs fois, je m'intéresse à bien des choses. Je suis très curieux. Donc, au détour, j'ai fait pas mal de sculptures, de peintures, et ensuite, je suis rentré en animation interactive.
Justement, en sortant de l'université, est-ce que c'est une visée pour toi d'être en animation? Parce que je dois t'avouer, je me rappelle pas à cette époque-là si le Québec avait encore des boîtes d'animation ou c'était justement une trajectoire de carrière qui était possible.
J'étais extrêmement intéressé par l'animation et je le suis toujours. Puis, je m'intéressais beaucoup à l'animation d'auteur. Mais c'était pas une visée professionnelle. Mm-hmm. Je préférais m'en aller dans le jeu vidéo que je considérais à cette époque-là et encore aujourd'hui comme un médium du futur qui est en train de se former. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir les différents paradigmes se former. Donc c'était là-dedans que je voulais travailler. Par contre, l'animation, ça avait une place particulière dans mon cœur. Et oui, je me disais que c'est quelque chose que j'aimerais faire on the side ou maintenir cette passion-là. Mais ça donne que c'est énormément d'efforts. J'ai travaillé un petit bout de temps à mon compte dans le motion design, dans le design et dans différents petits trucs d'animation pour quelques web-séries, etc. Puis je me suis rendu compte rapidement que travailler à son compte, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Par contre, c'est beaucoup d'ouvrages tout seul.
Oui.
Tout seul devant ton écran chez vous. Dans ce que je faisais, ça ressemblait beaucoup à ça. Et rapidement... j'ai vu que c'était peut-être pas pour moi que j'avais besoin des gens. J'avais besoin du contact avec les gens dans mon travail pour rester... c'était bon pour mon cerveau.
Oui, non, mais absolument, je crois que c'est une clé de reconnaître dans quelle sorte de milieu professionnel ouais. Tu veux te trouver. Effectivement, ben oui. Il y a des gens qui sont très effectifs tout seuls, concentrés sur leur truc. Mais il y en a d'autres, puis c'est quelque chose que j'ai découvert à propos de moi. Pendant un bout, je faisais des boulots par moi-même. Puis oui, dans mon cas, je crois que j'ai besoin d'avoir des gens pour bondir des idées, me faire contredire des fois, me faire remettre en question. Donc, je pense que c'est assez clé d'un processus professionnel de reconnaître ça rapidement pour trouver ta zone de confort.
Oui, absolument. Donc, c'est ça, j'ai fait un petit peu de temps à mon compte. Puis après ça, je suis parti de Québec pour m'en venir à Montréal pour travailler notamment... j'ai eu un premier contrat à l'Auto-Québec dans la division qui n'existe plus, qui s'appelait Ingenio.
C'était en quoi, cette division-là?
C'était la division de recherche et développement. Okay. Donc, il y avait quand même pas mal de produits plus innovants qui se faisaient dans cette division-là. C'est celle-là qui a fait les mythiques jeux sur CD-ROM, la loterie
oui,
sur CD-ROM.
Oui,
elle l'avait fait avant que j'arrive là-bas. Mais aussi plusieurs jeux en ligne, plusieurs jeux et applications sur mobile. Donc, mon rôle était un rôle un peu hybride de game designer et de UX designer pour le mobile, dans les débuts du mobile. Ça a été un de mes premiers contrats, qui était un contrat... d'environ un an, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, je suis allé travailler un peu dans le jeu vidéo en tant que motion designer. Et pour finalement revenir à l'Auto-Québec un peu plus tard, là où je suis encore maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire faire du design chez l'Auto-Québec versus travailler dans une compagnie privée de jeux vidéo de développement plus traditionnel? Parce que c'est mon impression, l'Auto-Québec doit avoir beaucoup d'implications légales. Là. Qu'est-ce que tu fais aussi en tant que concepteur de jeu?
Absolument.
Je sais que je travaille dans le domaine du mobile. Déjà que les microtransactions, il y a des fois des trucs qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, dépendant des groupes d'âge qu'on vise. Mais là, dans ton cas, ça devait être vraiment la version intense de ça parce que là, on parle de produits de loterie.
Absolument. Puis c'est tout à fait normal et tout à fait souhaitable que ça existe. Puis oui, on crée des produits de loterie et évidemment, il y a tout un département légal qui s'assure que tout ça répond aux normes légales en termes de loterie. Et un département aussi de jeux responsables qui s'assure que tout est fait selon les règles du jeu responsable parce que c'est un domaine qui est sensible.
Oui, absolument.
Oui, ça impliquait beaucoup de règles. Et aussi, c'est une entreprise qui souhaite bien faire les choses.
Absolument.
Tant au niveau de la langue, au niveau de toutes sortes de choses différentes. Pour être sûr que ça reflète une bonne image, mais aussi pour que ce soit, comment je dirais, des produits de qualité. C'est quelque chose qui est très, très important pour cette compagnie-là. Fait que oui, on ne se le cachera pas. Il y a quand même beaucoup de considérations légales et autres qui rentrent en jeu.
Comment ça se manifeste? Est-ce que la première fois que tu rentres au début de ton contrat, on t'accueille avec un manuel de 40 pages qui dit « tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça » ou est-ce que tu piches ton premier design puis après ça, justement, il y a des gens qui valident?
C'est beaucoup plus en travaillant avec les gens. Tu as les équipes quand j'ai commencé à travailler là, en fait, tu as les équipes de travail qui se font un peu comme dans toute autre compagnie, des petits groupes de travail qui vont travailler sur un produit, tu vas avoir un artiste, un ou deux programmeurs, un designer de jeu, un chargé de projet. Ou plus de gens selon la taille du projet. Puis, ben tous ces gens-là, en général, ça fait, il y en a plusieurs que ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là. Donc, ça s'enseigne au fur et à mesure. Puis, bien sûr, il y a une validation qui se fait à un certain moment clé pour vérifier que, bon, est-ce que les textes sont justes? Est-ce qu'ils sont bien traduits? Est-ce que légalement, on affiche tout ce qu'il faut côté légal? Au niveau du design, est-ce que tout répond à nos normes et à nos standards.
Mm-hmm.
Donc, non, c'est pas... Il y a pas un énorme manuel au travers duquel passer dans le cas où j'étais. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où, dans la bâtisse, où c'est beaucoup plus réglementé parce que... pour différentes raisons. Mais dans mon cas, c'était plus comme ça que ça fonctionnait. C'est beaucoup plus convivial, mais ça respecte en même temps toutes les règles.
Comment que les projets sont lancés ou pitchés à l'interne? T'sais, mettons, en tant que concepteur, toi, tu rentres un matin, est-ce qu'on te dit, OK, on vise un produit de loterie pour telle démographique, mâle, féminin, telle tranche d'âge, avec telle thématique, ou tu as un peu plus de marge, comment ça se déroule?
Dans le travail où je fais présentement, là, c'est plus du tout ça que je fais. Mais dans le travail que je faisais quand je suis rentré à l'Auto-Québec, ça pouvait varier, ça dépend. Ça pouvait être un des départements, le département des loteries, qui disait, ben nous, on a besoin d'un type de jeu, de tel type de jeu pour tel type de plateforme, puis on aimerait ça que vous aidiez, ou on a besoin d'un portail pour vendre notre loterie sur mobile, on aimerait ça que vous fassiez un design là-dessus, ou ça pouvait être complètement l'inverse. On avait un petit peu à ce moment-là les deux fonctions, là, mais les deux côtés, où ça pouvait être des projets sur lesquels on travaillait, qu'on montait et qu'on proposait à différents secteurs de l'entreprise.
Sinon, c'est très intéressant. Comme tu l'as dit tantôt, tu as fait un peu de conception de jeu. Après ça, tu as fait de la conception d'expérience utilisateur. Tu as fait un peu de motion design. Puis ensuite, tu es revenu vers l'expérience utilisateur. Comment ce cheminement-là s'est passé? Est-ce que c'est vraiment juste les projets qui ont dicté ça de ton côté? Il y a une progression par rapport à ta définition de qu'est-ce que tu voulais faire professionnellement?
C'est une bonne question. Puis je ne suis pas sûr que j'ai la réponse. Tu me la poses, puis là, je me dis, ah, ben, je vais réfléchir à ça, voir comment que ça s'est passé. Parce que oui, quand je suis rentré, comme concepteur de jeu, mais je me suis rapidement ramassé avec des projets qui n'étaient pas strictement du jeu, qui étaient beaucoup plus des interfaces. Donc, je me suis mis à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées avant. Qu'est-ce que l'utilisateur essaie de faire? Ou des gens de l'équipe m'ont posé des questions. Oui, mais c'est quoi le code d'utilisation ici? Ou si jamais ton utilisateur veut faire telle autre chose? Des questions que je ne me serais pas nécessairement posées dans un contexte de jeu. Et ça m'a forcé à me renseigner, à m'informer, puis à découvrir que oui, il y a tout un domaine qui existe qui s'appelle le UX design. Et ouais, je me suis informé beaucoup là-dedans. J'ai fait quelques cours à l'Université de Montréal, des cours HEC, puis à d'autres endroits aussi, pour apprendre cette profession-là, qui me paraissait faire beaucoup de sens. Et comme moi-même, je suis un utilisateur de produits qui est facilement frustré quand les produits fonctionnent pas comme je voudrais, ben ça m'a quand même vite connecté avec mon petit moi intérieur qui me dit « Oui, mais moi, quand j'essaye de faire quelque chose puis qu'on dirait que le produit a pas compris que c'est ça que je veux faire, ben ça m'a vite parlé.
Mm-hmm. »
Donc oui, c'est un sujet que j'ai approfondi par la suite et que je suis encore d'ailleurs en train d'étudier là, en design music, à la maîtrise en design de UX au HEC.
Très honnête pour toi, je fais sensiblement le même cheminement actuellement. Avant, j'étais plus concepteur de jeux généralistes. Je m'en vais tranquillement, pas vite, vers l'expérience utilisateur. Je sais pas si tu l'as vécu de même, mais moi aussi, dès que j'ai commencé à goûter à ça, j'ai préservé mon amour du jeu vidéo. On se le cachera pas, mais pour moi, c'est Un tantinet plus intéressant parce que j'ai l'impression qu'on interagit un peu plus avec une forme de langage universel, là, avec cette même langue-là. C'est pas juste du jeu vidéo, c'est pas des conventions de game design. C'est des conventions qui peuvent être utilisées dans l'application, dans le domaine médical, les loteries. Pour moi, je trouvais ça très attirant de dire « Oh non, j'ai le sentiment d'aller un cran au-dessus parce que là, je peux toucher à plein de domaines avec ça. »
Bien, moi, ça m'a ouvert, comme je te l'ai dit, ça m'a ouvert des portes que je ne connaissais pas. Ça m'a éclairé sur un domaine que j'avais pas vu du tout avant. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, je ne travaille ni dans le design de jeu, ni dans le design UX.
Quelle ironie.
Mais quelle ironie, oui, mais ces deux... Ces deux spécialités-là que j'ai développées m'aident beaucoup dans ce que je fais présentement. Justement, tu dis regarder un petit peu au-dessus, se rapprocher de l'humain qui est derrière le produit. Moi, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup dans ce que je fais présentement, de regarder derrière, que ce soit derrière un produit, derrière un partenariat, derrière une stratégie, derrière un programme. Qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que les humains, qu'est-ce que les groupes d'humains derrière ça essayent d'accomplir, puis comment on peut faire quelque chose qui les aide dans leur but. C'est comme un petit peu, je le vois comme ma vision UX, c'est peut-être très personnel, il y a peut-être beaucoup de gens qui le voient sans nécessairement avoir de background UX, je pense pas que c'est nécessaire, mais moi ça m'a aidé à regarder les choses comme ça, puis en me disant, ben des fois, en aidant les gens à accomplir leur but, ben tout le monde y gagne, puis c'est un petit peu comme ça que je regarde dans mon travail actuel.
Qu'est-ce que je suggérerais, c'est de prendre une pause. On est en train de gérer la poutine. Je sais pas pour toi, moi c'est difficile par bout. On va prendre une petite pause, mais ensuite, je crois qu'on va revenir pour vraiment parler en détail de ton travail à l'Auto-Québec.
Yes.
Donc, nous voilà de retour au restaurant. Est-ce que ça va toujours bien, Patrick?
Super bien.
J'aime ton attitude. C'est fantastique. Donc, ça me tenterait de me repencher un peu plus sur ton emploi en détail du côté de l'Auto-Québec. Okay. Contextualiser ça un peu. On l'a mentionné tantôt. Qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant de l'Auto-Québec depuis, ma foi, fort longtemps, parce que quelques de ces références-là sont basées sur mon enfance, c'est que l'Auto-Québec a quand même assez souvent essayer d'intégrer les nouvelles technologies dans leurs produits de loterie. Moi, je m'en rappelle quand j'étais jeune et que le CD-ROM était, bon, c'était la technologie du futur. Les encyclopédies se trouvaient là-dessus. C'était fantastique. Je me rappelle, l'Auto-Québec avait fait notamment une loterie sur CD-ROM. Oui. Sinon, après ça, on a vu Internet qui est débarqué. Il y a eu des produits, encore une fois, de loterie sur Internet. Et tu en avais fait mention aussi. Éventuellement, l'Auto-Québec a aussi commencé à développer des produits mobiles. Mm-hmm. Comment que l'Auto-Québec attaque ça, une nouvelle technologie? Est-ce qu'à longueur de semaine, vous essayez de regarder les nouvelles, voir si, ah, OK, les montres interactives s'en viennent, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, puis ensuite commencer à travailler sur des prototypes?
Il y a évidemment une curiosité naturelle qui se fait là, puis j'aurais tendance à... T'as fait un beau petit topo de toutes les différentes technologies qui ont été attaquées à l'Auto-Québec, disons. Puis, mais j'aurais tendance à te ramener encore un peu en arrière, en fait. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça, mais moi, je trouve ça très, très fascinant. Puis évidemment, j'étais pas à l'Auto-Québec à ce moment-là, mais les jeux vidéo, oui. Une grosse partie des jeux vidéo, oui, ont été développés à l'Auto-Québec par des gens avec qui j'ai travaillé. Puis j'ai appris ça, je me suis rappelé de ça en arrivant à l'Auto-Québec et en rencontrant ces gens-là qui ont travaillé sur les jeux vidéo, oui. Et en entendant leurs histoires, c'était fascinant.
Qu'est-ce qu'est le vidéo wave? Parce qu'on se rappellera. Ouais, on a un public en Europe qui potentiellement.
Il y a quelque chose de similaire, je pense, en Europe. Hein.
C'était Minitel, c'est ça? À quoi tu réfères?
Ouais. Je ne sais pas trop. Je suis pas très, très connaissant de tout ça en Europe. Mais le vidéo wave, c'était une sorte de. Appelons ça une. C'est pas une console, c'est un terminal que tu branchais sur ta télévision pour recevoir le câble, donc un paquet de canaux de télévision, mais dans lequel il y avait aussi une autre forme de communication qui se faisait et qui permettait de télécharger des jeux. On se rappelle, donc ça, on devait être à peu près dans les années fin 80, début 90, peut-être, début 90. Et c'était des jeux quand même assez rudimentaires.
Il y avait aussi, corrige-moi si c'est pas le cas, je m'en rappelle bien, parce que j'ai lu un peu plus là-dessus. Moi, j'ai pas connu ça, j'étais plus en région, donc on n'avait pas vraiment accès à ça.
Vous n'aviez pas le câble.
On avait le câble, mais pas par Vidéotron.
Ah, OK.
Donc, on n'avait pas accès à ça, sauf que j'avais des oncles et des tantes à Montréal, donc y allait de temps en temps. J'étais fasciné par cet appareil-là. J'avais lu ensuite qu'il y avait même eu des émissions interactives à la télévision.
Il y a eu ça. Donc, je pense que la première loterie interactive a été faite par l'Auto-Québec sur ce
Vidéo, oui.
Si je me trompe pas, à vérifier. Je vais vérifier avec tes recherchistes.
Ah oui, voilà. On les remercie encore une fois.
Mais oui, c'est ça. Ces jeux-là ont été développés sur cette console-là. Et les jeux vidéo, ils sont quand même... Il y a une place particulière dans le cœur des gens au Québec.
Dans l'imaginaire québécois,
dans l'imaginaire québécois, là, c'est... Je sais pas Nintendo, mais c'est quand même pas si loin. Parce que beaucoup de gens l'avaient. Il y avait les petits jeux classiques là, de serpent là, qui doit pas manger sa queue et de labyrinthe et toutes sortes de jeux comme ça qui étaient quand même très bien designés pour l'époque. Puis bref, non. C'est cette division-là qui travaillait là-dessus à l'Auto-Québec s'appelait Câble au jeu à ce moment-là. Et oui, j'ai des collègues actuels qui ont travaillé là-dessus qui voudront pas que je les nomme parce que ça les vieillit.
Oh, mais sérieusement, ils ont fait un bon boulot. Puis,
vraiment.
Considérant les limites techniques de l'époque, c'était très innovateur.
C'est vraiment fascinant quand même.
Pour moi, je crois que ce qui faisait l'attrait de ça, c'est que pour la première fois, on avait des produits, on pourrait dire numériques, dans le temps, c'était pas un terme qui existait, mais qui étaient vraiment adaptés au public québécois local. Tu sais, avant, comme tu l'as dit, Nintendo faisait des jeux, c'était fait à Kyoto, au Japon, bon, ouais, OK, on savait c'était Mario, mais on n'avait pas un rapport serré avec ça. Même chose pour les jeux qui sortaient sur PC, c'était Microsoft qui faisait ou d'autres compagnies de même. Certes, on avait des petits développeurs locaux au Québec déjà à cette époque-là, mais d'après moi, c'est la première fois que le monde avait accès à une espèce de produit de masse ou est-ce que... Moi, je m'en rappelle, il y avait des quiz de Santé Canada sur la cigarette. bon, tu avais des produits de l'Auto-Québec. Je m'en rappelle bien, il y avait aussi des informations d'actualité qui apparaissaient là-dessus. Si tu voulais avoir les pointages de parties de hockey, tu pouvais les avoir là-dessus. Moi, c'est ça qui m'avait frappé parce que quand j'étais à la maison, c'était tout le temps des produits faits à l'extérieur. Là, c'était... OK, d'abord, l'interface était en français. Puis ensuite, deuxièmement, c'était très localisé avec qu'est-ce qu'il y a à Montréal, qu'est-ce qu'il y a à Québec, ainsi de suite. Ça, d'après moi, ça a frappé les gens.
Ça se peut très bien. Donc, oui, pour en revenir à ta question sur comment l'Auto-Québec aborde l'innovation, tu sais, il y a toutes sortes de tendances en innovation. Et même, toi, tu parlais de technologie. Moi, je te ramène plus à l'innovation at large parce que l'innovation n'est pas forcément technologique dans mon point de vue à moi. Et il y a toutes sortes de tendances dans ce qui est de l'analyse des tactiques d'innovation, disons. Donc, c'est des choses qui changent au fil du temps. Donc, je ne sais pas si je pourrais revenir si loin que ça pour te dire comment les loteries sur CD-ROM ont été abordées, comment elles ont été pitchées pour dans quel contexte. Moi, j'y étais pas à ce moment-là. Mais ce que je sais présentement, c'est qu'il y a énormément de curiosité. Et aussi, c'est une entreprise qui est... Comment je dirais? C'est peut-être pas si connue. Mais il y a quand même beaucoup de geeks à l'intérieur de l'Auto-Québec. On est comme une espèce d'une entreprise hybride entre toutes sortes de choses, mais il y a un volet quand même très créatif, très technologique. Donc, on se ramasse avec beaucoup de gens qui ont un cœur de geek. Puis ça nous aide à observer, qui ont une curiosité naturelle pour les technologies, pour les nouveaux concepts, pour... juste pour faire la courte histoire, moi, je suis un passionné de board games, de jeux de table. Puis c'est en arrivant à l'Auto-Québec que j'ai développé ça. J'avais beaucoup de collègues qui jouaient régulièrement à des board games. Puis ils m'ont comme embarqué là-dedans. Puis ça m'a fait découvrir un grand nombre de board games. On restait après le boulot pour jouer aux board games. Et c'est de la recherche, on le voyait comme de la recherche de concept on the side. Puis il y a toutes sortes de manières là, d'aller chercher cette innovation-là et de rester à l'affût. Puis c'est sûr qu'évidemment, il faut aussi se renseigner sur les technologies qui se développent parce que ça peut facilement changer les paradigmes des nouvelles technologies. Autant qu'on parle du mobile il y a maintenant facilement... 8 ans, 10 ans, oui.
10 ans, parce qu'on se rappellera, le premier iPhone avec des applications, c'est en 2007, je me rappelle bien.
Donc, plus que 10 ans. Autant qu'on parle du mobile, que si on parle de la réalité virtuelle, si on parle du blockchain, si on parle d'un paquet de choses, de la réalité augmentée, un paquet de choses différentes qui peuvent changer l'environnement dans lequel on se trouve. C'est des choses auxquelles il faut... sur lesquels il faut bien s'informer puis rester à l'affût pour être sûr de voir les changements arriver.
Non, c'est vrai parce que, bon, étant une société aussi, vous avez un devoir de quand même garder un intérêt. Puis bon, peut-être effectivement, la génération de mes parents, il n'y a pas de problème. Acheter des étiquettes de loto, des gratteux, comme on dit dans le milieu, c'est pertinent. Mais si je pense aux personnes de notre âge, éventuellement,
pas sûr que tu vas aller chercher tout le monde avec des gratteux. Donc, c'est moi, je regarde un truc qui est très évident maintenant, c'est de dire ça valut la peine que vous penchiez sur des produits mobiles. Tout le monde a un téléphone maintenant ou tout le monde a des tablettes maintenant.
C'est sûr. Puis, on a aussi un devoir d'être présent. Notre devoir, c'est de gérer et d'opérer le jeu de hasard, mais en même temps, il y a une responsabilité d'être présent d'une manière cohérente là-dessus sur les plateformes qui sont utilisées par les gens. Mm-hmm. Ça répond à ça aussi.
Comment que les projets ou ces initiatives-là sont abordées? Est-ce qu'il y a un matin que tu regardes les nouvelles sur The Verge, puis bon, LG a annoncé Nouvel Monde, toi de ton côté, tu dis « OK, il faut faire quelque chose avec ça ». Est-ce que vous avez une rencontre à chaque semaine que vous discutez de ces affaires-là et vous décidez sur quoi vous voulez mettre un peu de temps pour faire de la recherche?
Dans notre équipe, dans mon équipe, on est très multidisciplinaire. On a des gens pluridisciplinaires, je devrais dire. On a des gens qui viennent de disciplines complètement différentes. On a des gens qui sont plus spécialisés en analyse d'affaires, d'autres qui sont spécialisés en conception de jeu, en TI, en scénarisation, en UX, en recherche. Donc, on a des profils vraiment, vraiment différents. Puis on dirait que ça se fait... Il y a une grosse partie qui se fait naturellement, je dirais, par les intérêts des gens, mais aussi par leur base, leur fondement professionnel. Donc, il n'y a pas nécessairement une réunion à chaque semaine okay. où on dit, là, il faut amener toutes les nouvelles choses. Parce qu'aussi, oui, peut-être qu'une telle compagnie sort une nouvelle montre ou une telle autre sort une nouvelle lunette VR. Mais le concept, à moins que ce soit qu'il y ait quelque chose de fondamentalement révolutionnaire, c'est plutôt l'idée générale ouais. de la réalité virtuelle qui est intéressante ou de la réalité augmentée qui est intéressante ou l'idée générale du blockchain qui, à mon avis, du moins, va être intéressante. Oui, on va surveiller l'actualité. Tout le monde surveille l'actualité mm-hmm. Technologique. Mais on ne va pas se lancer sur chaque petite bébelle qui sort. Évidemment, c'est plus les grands principes derrière ces innovations-là qui vont nous intéresser et qui vont être des vecteurs de changement. T'sais, comme si on regarde le téléphone mobile, il y en a des centaines, voire des milliers de téléphones mobiles différents, mais ça reste que la base de ce que c'est, ce à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet aux gens de faire, est-ce que les gens veulent faire avec un téléphone mobile. Mm-hmm. Ça reste pas mal la même chose, peu importe la marque du téléphone en tant que tel.
Et là, justement, bon, une des raisons pourquoi tu es ici à soir, c'est que vous avez commencé quand même à interagir, sans faire de mauvais jeu de mots, vous avez commencé à interagir avec le jeu vidéo. Donc, c'est sûr qu'il y a un truc qui est assez remarquable, particulièrement si on est à Montréal, on voit beaucoup d'événements de jeux vidéo.
Québec aussi.
Un petit peu. C'est clair. Je suis un bon Montréalais, je regarde mon nombril, je me dis, tout ça passe à Montréal.
Oui, au Saguenay aussi, de plus en plus.
Au Saguenay? Ah oui. Oui, très intéressant. Puis, il y a un truc que tu remarques. Il y a des fois des pancartes d'Auto-Québec, il y a des fois des noms d'Auto-Québec dans les noms des événements, il y a des fois, pardonne-moi mon anglicisme, des beanbags de l'Auto-Québec, donc tu dis « OK, il y a quelque chose qui se passe ». Peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui se passe, Patrick?
Pour nous, c'est comme... Nous, on travaille dans le jeu. Mm-hmm. On travaille dans un type de jeu qui est vraiment différent, peut-être, du jeu vidéo. On travaille dans le divertissement dans le jeu vidéo, dans le jeu. Donc, le jeu vidéo, pour nous... C'est un peu comme nos voisins. Mm-hmm. Puis, il y a tellement de choses créatives intéressantes qui se font de ce côté-là. Et comme je disais aussi précédemment, l'entreprise a une culture et une histoire où elle est très impliquée dans les domaines culturels. Et le jeu vidéo, c'est un domaine culturel important au Québec, particulièrement. Donc, ça correspond très bien à nos intentions en tant qu'entreprise de rester proche de ces domaines-là. Donc oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est aussi un domaine économique important au Québec, le jeu vidéo. Donc ça va toucher trois axes très, très pertinents pour nous. Hein? Nos voisins, un domaine économique important et un domaine culturel important pour la société québécoise. Donc on a décidé, il y a quelques années, de s'intéresser plus activement à ce domaine-là, qui se développait beaucoup. T'as vu comme moi, tu l'as mentionné, les multiples festivals, rassemblements de jeux vidéo ou de domaines reliés aux jeux vidéo, domaines connexes, les Comic-Con, même Fantasia. On n'est pas dans le jeu vidéo, mais on est quand même dans un domaine qui est connexe à ça, une sorte culture populaire. Bref, il y a une multiplication de tout ça et c'est des gens de tous âges qui se présentent là. Donc, c'est quelque chose qu'on a observé. On s'est dit, voilà une tendance forte, une tendance populaire forte vers le jeu vidéo. Et on s'est dit qu'il serait intéressant d'y être présent pour toutes ces raisons-là. Puis, on va faire plein d'interventions, autant... autant à Québec qu'à Montréal, dans différents festivals. On est présent au Pixel Challenge à Québec, qui est une espèce de game jam, mais aussi ouvert au public, où c'est un peu une célébration du jeu et de la création du jeu qui rassemble l'industrie, les indies, les étudiants, les adeptes de jeux rétro, les adeptes de e-sport. Ça rassemble un peu tout le monde autour du jeu vidéo. Puis on est présent là pour aider un petit peu, supporter, donner des prix aux gagnants des Game Jam. Et ça, c'est des choses qu'on va faire aussi à certains endroits précis, donner des bourses à des gens qui vont remporter des concours dans le jeu vidéo. Souvent, les gens à qui on va donner des bourses, ce sont des développeurs indépendants, des développeurs de jeux indépendants. Donc, ils ne sont pas... n'appartiennent pas à une des grosses, des méga entreprises en jeu vidéo, mais qui sont plutôt des propriétés intellectuelles, des studios qui possèdent leur propre propriété intellectuelle au Québec. Mm-hmm. Une autre, on va aussi supporter ce qu'on appelle à l'interne des laboratoires, parce qu'on le fait dans plusieurs domaines. On a voulu trouver un nom qui rassemble un peu tout ça. On le fait autant dans les technologies, avec le laboratoire Syntech de l'ETS.
L'école de technologie supérieure.
Qui est l'école de technologie supérieure. Et aussi avec MT Lab, qui est plus un laboratoire. En fait, c'est un accélérateur d'entreprises en culture, divertissement et tourisme, si je ne me trompe pas. Puis, on le fait aussi dans le jeu vidéo, avec Espace Ludique, où plusieurs le connaissent sous le nom de Gameplay Space, qui est un espace qui regroupe presque une vingtaine de studios, si je ne me trompe pas, et autres entreprises reliées au jeu vidéo. Donc, c'est un espace commun dans lequel il se passe beaucoup plus que juste la location de bureau. Il y a un paquet de conférences qui se font là, tout ça. Donc, nous, on est partenaires avec eux aussi. Là. On les supporte dans leur initiative. Et aussi auprès de la Guilde avec l'Odyssée musicale. Mm-hmm. On les supporte beaucoup avec ça. Voilà. Une des choses qui me tient, c'est un long préambule pour arriver, choses qui me tient le plus à cœur dans cette initiative-là qu'on fait auprès du monde du jeu vidéo at large, c'est comme une espèce de... Puis ça va arriver la fin de semaine prochaine, en fait, je sais pas, au moment de la diffusion du podcast, où est-ce que ça va être exactement, mais bref, du 7 au 9 septembre, un festival qui s'appelle DreamHack Montréal, qui est un festival de e-sport où il y a des dizaines de compétitions de e-sport professionnelles et amateurs, internationales et locales, qui sont réunies dans le stade olympique. Bien, nous, on est présents là, mais de la manière qu'on a choisi d'être présents, c'est de réserver un grand espace, puis d'inviter les développeurs de jeux indie à présenter leurs jeux là. Tout à fait gratuitement, il y a une sélection qui se fait avec nos partenaires de multijoueurs. Et les studios qui sont sélectionnés viennent présenter leurs jeux au public dans cet espace-là. On invite aussi des streamers de Twitch, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ce sont des streamers québécois qui viennent parler de ces jeux-là live durant toute la fin de semaine sur le canal Twitch de l'Auto-Québec et essayer ces jeux-là. Parce que ce qu'on s'est rendu compte rapidement en s'intéressant au domaine du jeu vidéo, c'est que au Québec, on ne connaissait pas bien nos propres jeux vidéo.
C'est d'une grande ironie. Je prends juste encore une fois l'exemple de Montréal, parce que je suis un sale Montréalais qui pense qu'à ma ville. Mais j'ai vu comme des festivals comme Mega qui soulevaient une grande ironie. Effectivement, il y a beaucoup de personnes du public plus général, pas les gros fans de jeux qui sont pointés là. Et je parlais à ces personnes-là, puis souvent, le monde, c'était insoupçonné de leur côté qu'il y avait tant de jeux qui se créaient. Des fois, ils découvraient des jeux qu'ils connaissaient. Ils disaient, c'est fait à Montréal, quoi?
Oui.
Puis ça, pour moi, ça a été une des plus grandes ironies de Montréal. Oui, certes, on va prendre un exemple qui fonctionne très bien. Ubisoft fait très bien son boulot dans les médias. On sait qu'il développe Assassin, que c'est fait à Montréal, et ainsi de suite. Les autres développeurs, puis c'est pas tiré de la boîte, il y a différentes raisons pourquoi font passablement moins bien un boulot d'exposition au public large. C'est l'accès aux médias aussi des fois. Je comprends, un gros média va sortir, va aller chercher des gros studios, mais au-delà de ça, on est passablement mal informé sur notre offre locale et pourtant...
Ça se comprend très bien aussi, puisque ces studios-là n'ont pas les mêmes capacités qu'un grand studio pour faire connaître ce qu'ils font. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on s'est dit, on peut peut-être prendre cette place-là, les prendre sous notre aile, puis les aider à se faire connaître du milieu québécois. Et ça se comprend aussi très bien. Ces gens-là veulent vendre leurs produits partout dans le monde. Donc, l'effort de marketing est fait un peu partout dans le monde. Donc, nous, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait donner un petit coup de main, ça peut inspirer les gens, ça peut les aider, ça peut les aider à réseauter entre eux, ça peut aider peut-être des gens aussi qui considèrent peut-être le domaine du jeu vidéo, oui. Qui aimeraient ça savoir c'est comment là-dedans, parce que quand on arrive dans la zone indie, c'est les développeurs de jeux eux-mêmes qui sont là dans les booths. Ce ne sont pas des agences d'activation qui vont, avec qui tu vas parler directement avec le développeur du jeu, avec le concepteur, avec le testeur, avec l'artiste. Donc, tu peux avoir une relation beaucoup plus... tu peux avoir des questions beaucoup plus pointues avec ces
gens. Puis établir des liens avec ces développeurs-là, je pense, c'est un aspect, justement, on a tellement de joueurs à Montréal, d'avoir un lien privilégié direct avec les développeurs, c'est assez fantastique, au lieu de passer par Twitter, Facebook, tous les autres moyens, d'avoir un lien physique, d'après moi, ça change définitivement la donne.
Puis pour tout le monde aussi, c'est le fun de parler de jeux dans un contexte social et public, de jouer, d'interagir, de parler de jeux, de regarder des personnalités en ligne qui sont là. Donc, c'est un petit peu ça, le but au travers de ça. Puis nous, en tant que l'Auto-Québec, c'est quelque chose qu'on a choisi consciemment de faire, de ne pas faire. Okay. On a voulu, depuis le premier DreamHack, on fait ça à Comic-Con et à DreamHack. Mm-hmm. Depuis le premier DreamHack, je pense que c'était en 2016, on a choisi d'être là sur place, de faire le projet nous-mêmes, de monter tout ça, de contacter les influenceurs, de contacter chacun de ces studios-là. De faire tout ce qu'on diffuse sur Twitch, toute l'identité visuelle de la zone est faite à l'interne à l'Auto-Québec par nos graphistes, par nos artistes numériques. Toute notre relation aussi avec les indies là, est faite comme ça. Puis on a choisi de le faire de cette façon-là pour plusieurs raisons, parce que nous-mêmes, on veut être en contact avec ces gens-là. Ça nous inspire de le faire. Ça nous inspire de voir ce qu'ils peuvent apporter. Puis ça crée quelque chose de différent, je pense que... On s'entend que c'est plus complexe de le faire comme ça. C'est plus d'énergie.
Oui, parce qu'on peut bien prendre l'argent, l'attirer sur du monde, puis that's it.
Ça aurait pu être ça, la stratégie. Puis, je ne l'aurais pas dit comme tu l'as dit là, mais dans certains cas...
C'est mon privilège d'animateur, détaché de ça.
Mais dans certains cas, c'est une stratégie qui est très valide.
Oh, oui.
Mais ici, bon, on voulait vraiment s'intéresser à ce domaine-là qu'on considère comme étant nos voisins, finalement. Oui, c'est ça. Moi, c'est une initiative que je suis très, très fier. Puis je vous invite d'ailleurs à venir la voir ou regarder en rediffusion ce qui s'est fait sur la chaîne Twitch de l'Auto-Québec.
C'est quoi le retour de ces intervenants-là à date? Intervenants, je parle des développeurs, des médias que tu impliques. Tu avais parlé de streamers et compagnie. Quel est le retour de cette initiative-là à date?
Donc, tu me demandes comment ils perçoivent ça?
Oui, comment qu'ils reçoivent ça? Est-ce que tu as des bons commentaires après ou tu es comme « Pat, qu'est-ce que c'est? »
Ah, le téléphone ne dérougit pas pour les plaintes.
C'est fantastique.
C'est pas vrai. Non, on a de très bonnes... on a de très bons commentaires. On n'a pas seulement des commentaires positifs, mais je pense que ce qui est apprécié, c'est que les commentaires soient positifs ou négatifs, ou que ce soit des pistes d'amélioration, on les écoute beaucoup puisqu'on est là sur place. Généralement, on agit dessus. Quand les gens ont des idées, on les fait. Comme il y a une des streamers qui nous a proposé une idée d'être présent à quelques moments sur notre chaîne Twitch avant ces événements-là où est-ce qu'on va diffuser pendant 3 jours de temps. Ben, pourquoi on ne serait pas un peu avant? Pourquoi on n'irait pas visiter des studios qui vont être invités dans la zone indie? Puis on a regardé ça, on a dit « Hey, c'est pas fou, ça. »
Ouais, un bon préambule à l'événement, là.
Ben oui, faisons-le. Fait que c'est quelque chose qu'on essaye présentement. Plusieurs autres choses. Puis aussi, je pense qu'on est à l'écoute de leurs besoins. On sait que c'est aller au DreamHack, aller à Comic-Con. Il y a un paquet d'autres conférences dans le monde qui, pour plusieurs raisons, peut-être pour le timing ou tout ça, pourraient paraître plus pertinentes pour ces développeurs-là. Donc, on essaie de leur faire la vie la plus... facile possible. On leur donne des petits tapis pour pas qu'ils aient trop mal aux genoux. On le sait que c'est eux-mêmes qui passent le fin de semaine au complet là-bas et qui rentrent au travail le lundi. Donc, on essaie autant que possible de leur offrir une belle expérience. Parce que, d'un autre côté, hein, si on n'a pas de développeur de jeux indie dans la zone indie, ben il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de zone indie.
Ça peut être triste.
Oui, on veut qu'il y ait la meilleure expérience possible.
Ça fait quand même un petit bout que vous avez ces initiatives-là. Comment tu as l'impression que ça change l'Auto-Québec, ces initiatives-là? Parce que tu l'as dit, il y a des gens de l'interne qui travaillent là-dessus. J'imagine que vous vous ramassez de l'expérience de ça. As-tu le sentiment que ça commence à affecter votre travail sur d'autres produits? Est-ce que ça teinte votre regard créatif?
C'est sûr qu'à l'interne, ça nous donne tout un réseau qu'on n'aurait pas autrement. Mm-hmm. les développeurs indépendants sont concentrés sur leurs propres produits. Et de travailler avec nous, ça donne un réseau. Parfois, ça peut donner des collaborateurs qui nous aident sur différentes choses. Mm-hmm. À l'interne, c'est sûr aussi que ça fait des... La zone indie, la diffusion qu'on fait là-dessus, c'est un produit sur lequel on peut un petit peu plus s'éclater en termes créatifs. Ça, c'est vraiment apprécié. Ça vient comme balancer le yin et le yang pour certains collaborateurs. Puis, je pense qu'à l'interne, oui, il y a beaucoup de chemin qui se fait là-dessus. Et on a, je pense, fait un bon cheminement depuis les débuts. C'était très, très expérimental. Et tu le sais, tu travailles en UX. Il y a une technique qui s'appelle le guerrilla research.
Oui.
On a utilisé beaucoup cette technique-là au début pour faire des petites initiatives, mais vraiment aller sur le terrain, comprendre qui sont les intervenants, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, puis après ça, tranquillement améliorer ce qu'on offrait. Puis sans dire qu'on est rendu à la forme finale de la zone indie, je pense qu'on est quand même à une forme qui est très, très appréciable présentement.
Très bien. Le dernier temps, je voulais aborder avec toi par rapport à ce que l'Auto-Québec fait vis-à-vis du jeu vidéo. C'est, à mon avis, une interaction qui a l'air évidente. Je serais curieux d'avoir ta position là-dessus. C'est le rapport avec le sport électronique, le jeu compétitif actuellement.
C'est vrai.
Est-ce que c'est une avenue que l'Auto-Québec tente d'explorer? Parce que moi, déjà là, je vois des produits de loterie qui pourraient tourner autour de ça. On en a déjà autour du sport. Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré actuellement?
Ben oui, justement, je peux t'en montrer un.
Oh là là, en direct.
Je suis en train d'ouvrir mon téléphone pour montrer. Oui, on a présentement des paris sur... Aujourd'hui, on a des paris sur Counter-Strike et League of Legends. Donc oui, ça fait environ 2 ans qu'on a des paris sur le e-sport. C'est comme tout domaine compétitif et qui a un intérêt public international. C'est sûr qu'il va y avoir des paris. Donc pour nous, c'est très, très important d'être là de manière légale et intègre.
Oui.
Pour offrir ces paris-là aux gens qui veulent parier sur ces événements-là. Et comme c'est en pleine croissance, évidemment que c'est quelque chose qui est là pour... les paris sur le e-sport sont là pour rester. Mm-hmm. Donc, justement, à DreamHack, on va être là avec le boot mise au jeu qui va être proche d'une des scènes de e-sport pour montrer aux gens qu'on est présent dans ce milieu-là. Puis je pense que c'est important de le faire, important et responsable de le faire pour offrir des produits de jeux de hasard qui, comme je le disais tantôt, qui sont intègres autour de ce nouveau... je dirais pas nouveau, ça me tanne quand les gens disent que le e-sport est nouveau. L'intérêt public vers le e-sport est nouveau, mais le e-sport, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui se développe depuis les 15 dernières années, je pense, à peu près, là, en tracer les grandes lignes. Mais bon, avec son émergence plus publique et plus... visible, mais ça fait en sorte qu'il y a toute une offre qui se développe autour de ça, de laquelle on fait partie.
J'aimerais finir un peu sur les technologies. Bon, on l'a dit en début, vous regardiez des technologies. Je vais peut-être me pencher un peu plus sur ton cas personnel, Patrick.
Ben oui.
Actuellement, toi, est-ce qu'il y a des technologies qui s'en viennent ou qui commencent à émerger, qui te branchent vraiment et qui semblent avoir un très gros potentiel pour le domaine dans lequel tu travailles? Tu parlais du blockchain, notamment, qui, je pense, fait beaucoup de sens, ne serait-ce que pour les questions de sécurité, là.
Ah, ça va affecter un paquet de domaines différents. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, autant personnellement que via TEDx ou via la job. Oui, le blockchain en est une. Évidemment, l'intelligence artificielle, ce mot qu'on entend partout ces temps-ci jusqu'à nous en faire filer les oreilles. Mais oui, évidemment, ça reste que c'est un paquet de développements intéressants qui se font là. J'ai une bonne amie qui travaille dans le domaine et on en discute régulièrement. Fait que oui, c'est des technologies que je regarde beaucoup. Ce qui me... Par rapport au blockchain, ma perception du truc, c'est que c'est une innovation fondatrice. Je ne vais pas vous ennuyer avec les termes trop techniques, là, mais une innovation fondatrice, c'est un peu comme l'Internet, disons.
Oui.
Donc, c'est long à démarrer. Mais il y a quelque chose de fondamental qui change. Il y a un nouveau paradigme et il y a un nombre d'innovations qui vont émerger de cette innovation fondatrice-là. Donc, justement, si on regarde l'Internet là, avec le recul, je me souviens quand c'est sorti et qu'on voyait à la télé, il essayait de nous expliquer ce que c'était l'Internet. Moi, je n'y comprenais absolument rien.
Non.
Et je pense que personne comprenait vraiment ce que ça allait apporter. Puis maintenant, quand on le regarde, ben, on voit le paquet. le nombre de choses qui sont possibles grâce à ça.
Oui.
Mais je pense que le blockchain va permettre aussi ça. Peut-être que je me trompe, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a un paquet de choses qui vont émerger de ça. Mm-hmm. Évidemment, ça se fait lentement. L'Internet, avant que ça prenne une forme qui soit accessible à tout le monde, ça a pris plusieurs dizaines d'années. Mm-hmm. Et dans le cas du blockchain, je suis pas un devin, je peux pas le savoir, mais c'est quelque chose que je regarde attentivement.
Je crois que c'est quelque chose qu'on voit déjà des applications très évidentes. C'est un peu comme la crypto-monnaie aussi. Pendant un bout, au début, tout le monde en riait un peu. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est vraiment utilisé à toutes les sauces. Et aussi, là où tu remarques qu'une technologie commence à être importante, c'est que tu vois que ça peut avoir des résultats sur la société. On parlait d'Internet au début, effectivement. Bon, OK, c'est bien, tu t'en vas sur le site de Nintendo, tu vois les jeux qui s'en viennent, c'est fantastique. Mais là, on regarde maintenant à quel point Facebook peut avoir des effets. Pour le meilleur, pour le pire, il peut avoir des effets. Des fois, c'est le système politique de certains pays, et ainsi de suite. C'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des technologies à base qui avaient l'air très simples, finalement, une très grande portée. Blockchain, je pense, en est une, parce que comme tu l'as dit, c'est un gros changement de paradigme, ne serait-ce que juste dans notre utilisation d'Internet. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant, ou ça a une plus grande portée qu'exemple la réalité virtuelle, qui peut amener vraiment plein d'affaires, mais déjà là, on frappe des murs au niveau de... peut-être trop dispendieux, les gens peut-être pas savoir un casque sur la tête, tandis que la blockchain, je vois assez rapidement comment ça peut avoir une forme facilement consommable.
Mm-hmm. Puis pour parler de la réalité virtuelle aussi, peut-être que ça sera utilisé à autre chose que ce qu'on l'imagine présentement, au final.
Hey, on arrive à la fin du repas. J'ai un nouveau segment qui s'appelle le dessert, fait que on va poser des questions rapides. Encore une fois, mes recherchistes ont fait un excellent travail, on sait certaines choses à propos de toi, donc on va poser des questions là-dessus.
Viens-tu avec un dessert?
On gardera ça tantôt. On a sûrement... on a la technologie, ça devrait être correct. D'abord, on est quand même là des jeux vidéo. C'est quoi ton jeu vidéo préféré?
Jeux vidéo préféré, j'en ai vraiment beaucoup. Ma bibliothèque Steam, elle est beaucoup trop garnie. Je vais pouvoir te dire ces temps-ci à quoi je joue. Je joue et j'ai joué beaucoup à Rocket League.
OK.
J'aime beaucoup jouer avec des gens mm-hmm. dans les jeux vidéo. J'aime les expériences individuelles, mais j'aime surtout jouer avec les gens. J'ai aimé beaucoup Borderlands. Ça, j'ai vraiment trippé. Qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup aussi? Ces temps-ci, je joue à un petit jeu qui s'appelle Synthetic,
okay.
qui est un genre de roguelike qui se joue à deux. Mm-hmm. Où t'es des androïdes qui se battent contre des robots. Bon, écoute, le concept est pas... l'histoire est pas si développée, mais c'est bien, bien le fun. Puis sinon, en termes de jeux québécois, parce que je vais certainement mentionner de nos beaux succès québécois, j'ai trippé ma vie sur Thunder. J'arrête pas de le dire. S'il y a des gens qui m'ont entendu plusieurs fois, ils doivent être tannés que j'en parle. J'ai trippé ma vie sur Thunder parce que je suis un adepte d'animation. Ce jeu-là est animé vraiment superbement. Les couleurs me font tripper. Je suis un adepte aussi un adepte qui se développe de BD. Donc, ça me rejoint aussi. Puis, c'est ça qui me vient en tête présentement.
Si t'avais un livre à recommander, ça serait lequel?
J'aurais de la misère aussi en a recommandé juste un, comme tu m'en reviens au concept que je suis beaucoup trop curieux et passionné de plein de choses différentes. Je dirais ces temps-ci, deux de mes livres préférés, Snow Crash de Neil Stephenson, livre un peu cyberpunk, je dirais.
Okay.
Rent de Chuck Palahniuk.
Oui.
Un livre très, très bizarre.
Ouais, c'est Chuck Palahniuk, donc oui.
C'est ça, j'aime Chuck Palahniuk pour plusieurs raisons, pour le fait que c'est très, très bien synthétisé, ce qu'il dit. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sont là pour rien. Et il joue beaucoup avec la manière de présenter son récit. Des fois, c'est tout morcelé. Justement, dans le cas de Rent, c'est l'histoire d'un gars, mais on ne voit jamais ce gars-là directement. On le voit toujours à travers les yeux de différentes personnes. Donc, chacun des chapitres, c'est le policier du village qui parle de lui, c'est le curé, c'est sa mère, c'est une autre personne. Et tu finis par comprendre l'histoire au travers des yeux de chacune de ces personnes-là, parce que pour certaines personnes, un même événement va être vécu d'une manière différente. Et ça prend une twist tout à fait bizarre à mener dans le livre. Si tu ne l'as pas lu, fortement recommandé. Sinon, côté plus théorique, j'aime beaucoup Jane McGonigal. Reality is Broken.
Grand classique.
Ouais, lecture obligatoire si vous ne l'avez pas lu. Récemment, je me suis tapé tout en BD. Black Science de Rick Remender. Fortement recommandé. J'ai adoré. C'est tellement beau. Comme le visuel, je trippe sur les couleurs. Fait que, ouais. Même si ça paraît pas dans mon habillement.
Non, mais souvent, c'est ça, la dualité. Tu projettes pas beaucoup de couleurs parce que t'en aspires beaucoup. Quelque chose
c'est
du genre.
C'est ça, peut-être.
Et voilà. Si on va y aller vraiment dans le plus personnel qui te concerne, j'ai eu vent que tu es un fan des films de Bollywood, les films indiens. Puis t'en as mis un, disons que bon, c'est un genre qui, malheureusement, ici, n'est pas super connu. S'il y en aurait un pour faire découvrir le genre, un film idéal, ça serait lequel?
Singham, peut-être. C'est drôle parce que oui, c'est un genre de dualité avec les films bollywoodiens. Il y a toujours un gros côté quétaine, on ne sait pas. Où il y a des morceaux où on a l'impression de reconnaître le cinéma plus série B hollywoodien des années 60-70. Mais en même temps, c'est réalisé de manière très avec les technologies d'aujourd'hui. Il y a tout le côté danse qui, moi, me fait quand même. Ça m'impressionne parce que c'est pas des. Pas des effets spéciaux, là, c'est des vrais danseurs.
Non, la direction artistique, normalement, les habits, tout ça, c'est rocambolesque.
Donc, chacun de ces films-là a un côté très, très... j'aurais de la misère d'en donner un comme étant un chef-d'œuvre. Par contre, c'est ça, je recommanderais Singham, très bon film, ou Krish.
Très bien, on en prend
Krish 1 ou Krish 3. Ouais, c'est ça.
Très bien.
À écouter avec des amis, avec une bonne bière.
On va y aller très rapidement. Fan de musique électronique, quel est ton album fétiche de musique électronique? Encore une fois, je sais, c'est un choix difficile, mais vas-y fort.
Encore une fois, hein?
Oui.
Ces temps-ci, j'écoute beaucoup du Siete 14. Siete 14? 14? Mon espagnol est un peu boiteux.
Ah, malice.
Un artiste électronique mexicain que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est venu à Mutec. Sinon, j'aime beaucoup un groupe de musique électronique torontois dont je ne pourrais prononcer le nom parce que c'est un peu vulgaire, mais c'est Holy F.
OK.
Puis, qui font vraiment de l'excellente musique. Et je ne sais pas pourquoi ils s'appellent de même. Il n'y a aucune parole dans leur musique. Et oui, ils font de l'excellente musique électronique à partir d'éléments analogues. Oui, j'aime beaucoup. Je les ai découverts à Pop Montréal il y a de ça plusieurs années. Où j'aime beaucoup aussi, j'aime énormément toute la musique électronique de Détroit. Et un autre artiste qui, je pense, vient de Grande-Bretagne, qui s'appelle Tommy 47, que j'aime beaucoup. Donc, oui, je suis aussi un fan d'un paquet d'autres styles de musique. Il n'y a pas beaucoup de styles de musique que je n'apprécie pas. Mais dans chacun des styles, je trouve des choses intéressantes.
Très belle perspective à avoir. On va y aller avec une dernière question, et ça revient avec ton domaine et ton devoir de curateur. Conférence TED préférée et pourquoi?
Oh boy!
Ou celle qui t'a le plus marqué? Ouais.
Je vais être un peu plate, mais si je reviens avec la conférence de Jane McGonigal, en fait, les deux conférences de Jane McGonigal, pour moi, sont très bonnes. Mais il y en a beaucoup d'excellentes conférences de TED. C'est choix difficile. Sinon, je vais en profiter pour faire une plug sur
Allons-y.
Une de nos conférences.
Ça fait.
Une des conférences qu'on a faites à TEDx Montréal, qui est l'une des plus populaires. Parce qu'on a eu la chance que trois de nos conférences, si je ne me trompe pas, sont sur le site officiel de TED.com, ce qui est extrêmement rare. Vu le nombre de conférences qui se filment partout dans le monde, je pense qu'il y en a autour de 400 ou 500 qui sont sur TED.com. L'une des nôtres est la conférence de Alexis Charpentier, qui est pas un DJ, mais c'est quelqu'un qui recherche de la musique qui a été perdue. Et qui a fait une conférence là-dessus en amenant l'écoute d'un artiste qui habitait à Trois-Rivières, justement.
C'est mon coin, ça.
Dont, malheureusement, le nom m'échappe, mais qui avait fait un album dans les années 70 en arrivant au Québec. C'est un immigrant. Puis, cet album-là a été complètement oublié. Mais c'est un excellent album. Sa carrière a été un peu relancée par ce Talk TED-là qui a été vu, je pense, presque à un million de fois. Donc, allez le voir. Le talk s'appelle... Mémoire. s'appelle... Est-ce que c'est Forgotten Treasures and Future Classics? Mm-hmm. C'est peut-être ça. Du moins, cherchez Alexis Charpentier sur TED.com.
Google.
Tombez sur sa conférence. Elle est excellente. Ça fait partie de mes préférés aussi.
Très bien. Mais un gros merci à toi, Patrick.
Aye,
ça a été long,
plaisir.
Ça a été intense, ça a été touchant,
facile.
Ça a été motivant. Un gros merci à toi.
Merci à toi surtout.
Oh là, merci.
Nous voilà donc de retour dans mon somptueux appartement pour faire nos devoirs de fin d'épisode. Donc, tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à Poutine à deux et que vous avez quand même aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui. Donc, je vais probablement vous déconcerter en disant qu'il est possible, oui, de s'abonner à Poutine à deux, et il y a deux manières très simples. Tout d'abord, si vous vivez dans l'écosystème Apple, allez tout simplement sur l'application Apple Podcast, cherchez Poutine à deux, cliquez sur le bouton d'abonnement et le tout va être réglé. Si vous êtes sur d'autres plateformes qui utilisent le répertoire d'Apple Podcast, en théorie, cherchez Poutine à deux, vous allez nous trouver. Mais toutefois, si vous n'avez pas accès à ce répertoire-là, vous pouvez tout simplement aller au radiocavois.com, aller dans la barre de navigation, aller dans la section de jeux vidéo, trouver la page de Poutine à deux que vous pouvez ajouter à n'importe quelle application de podcasting et ça devrait fonctionner. Vous avez des questions, des commentaires, vous voulez envoyer un poème à propos de la dernière version de Zelda, il y a une manière de le faire, vous pouvez écrire au poutineadeux@commercialradiokawa.com. Poutine à deux s'appelle P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X @commercialradiokawa.com. C'est la manière la plus rapide, la plus efficace de nous rejoindre. Comme il se doit, Poutine à deux est quand même sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez, encore une fois, chercher l'identifiant à commercial Poutine à deux, soit sur Facebook, soit sur Twitter, et vous allez nous trouver. D'ailleurs, ça vaut la peine de nous suivre sur les médias sociaux parce que de temps en temps, nous voulons vous impliquer dans le processus de création des épisodes. Donc, suivez-nous et vous pourrez envoyer vos questions pour les prochains épisodes de Poutine à deux. Si vous avez aimé cet épisode-là, il y a une manière très simple de nous donner un coup de main, c'est tout simplement de laisser des critiques positives, souhaitons-le, sur Apple Podcasts. Donc, vous pouvez laisser tout simplement 5 étoiles, mais vous pouvez aussi écrire une critique. Donc, s'il y a des aspects que vous aimeriez que l'on améliore, utilisez ce médium-là et nous allons vous lire pour sûr. D'ailleurs, un très bon exemple m'a fait sourire récemment, c'est la critique de Caras1234 sur le Store canadien qui dit tout simplement « Excellent podcast comme les jeux sont faits », ce qui était mon ancienne émission avant Poutine à deux. La formule est contractée autour d'une poutine fait que la discussion est moins formatée, mais les questions sont toujours aussi pertinentes. C'est comme si nous y étions. Il manque juste ma poutine. Donc, un gros merci à toi encore une fois. Caras1234, ça me touche vraiment. Donc, si vous voulez émuler cette personne-là, ça serait grandement apprécié. Finalement, oui, il y a un épisode de Poutine à deux qui s'en vient. Cette fois-ci, cet épisode va être disponible le 26 septembre. L'heure est encore à confirmer parce que je suis en train de négocier cela avec Radio Kawa. Selon toute vraisemblance, le très suave Grégory Bellacelle va marquer son retour à Poutine à deux. Donc, cette fois-ci, il va aller manger de la poutine avec Dominique Bourret, qui s'appelle aussi Papa Cassette les intimes, qui est l'un des cofondateurs de Arcade MTL ou Arcade Montréal, il faudra demander comment on le prononce, qui est probablement le plus grand bar d'arcade de la métropole. Donc, ça risque d'être très intéressant, particulièrement pour vous, amateurs de jeux rétro et peut-être d'alcool. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Mm-hmm.